35. Holly n'a aucun doute sur l'identité de leur sauveteur et elle n'hésite pas une seule seconde. Elle traverse en courant le salon criblé de balles et franchit la porte en criant son nom encore et encore. Quand il se relève, on dirait que Jérôme a été roulé dans du sucre glace. Holly se jette dans ses bras en poussant des sanglots entrecoupés de rire.
« Comment as-tu su ? Comment as-tu su qu'il fallait venir ?»«
C'est pas moi, » dit-il. « C'est Barbara. J'ai appelé pour avertir que je rentrais à la maison et elle m'a dit de faire demi-tour sinon Brady allait vous tuer. Sauf qu'elle disait que la voix allait vous tuer. Elle délirait à moitié. »
Hodges s'approche lentement, titubant. Mais il est assez prêt pour entendre, et il se souvient que Barbara a confié à Holly avoir encore en elle un peu de cette voix du suicide, comme une traînée de bave. Hodges comprend maintenant, car lui aussi a encore de cette écœurante morve mentale dans la tête. Barbara était peut-être encore juste assez connectée avec Brady pour savoir qu'il les attendait au tournant. Ou alors, c'était peut-être de la pure intuition féminine. Hodges croit réellement à ça. Il est de la vieille école.
« Jérôme, » dit-il. Il a la voix enrouée. « Mon gars. »
Ses genoux le lâchent. Il va tomber. Jérôme se libère de l'étreinte féroce de Holly et referme un bras autour de Hodges pour le soutenir.
« Tu vas bien ? Enfin, je sais que tu vas pas bien. Mais t'as pris une balle ?»«
Non. »
À son tour, Hodges referme un bras autour de Holly.
« J'aurais dû savoir que vous alliez me suivre. Vous en faites qu'à votre tête, vous deux. »«
On n'allait pas quitter le groupe avant le dernier concert, pas vrai ?» dit Jérôme. « Allez, viens, monte dans... »
Un son animal s'élève sur leur gauche. Un grognement guttural qui cherche à devenir des mots, mais n'y parvient pas. Hodges est plus exténué qu'il ne l'a été de toute sa vie. Mais il se dirige quand même vers ce grognement parce que... Eh bien, parce que... Quelle est la formule qu'il a employée avec Holly en venant ici ? Tourner la page ? Le corps piraté par Brady gît, éventré jusqu'à la colonne vertébrale. Ses viscères déployés autour de lui tels les ailes d'un dragon rouge. Des nappes de sang fumantes s'enfoncent dans la neige. Mais il a les yeux ouverts et conscients. Et tout à coup, Hodges sent ses doigts revenir farfouiller dans son esprit. Et cette fois, il ne se contente plus de l'explorer nonchalamment. Cette fois, il tâtonne frénétiquement à la recherche d'une prise. Hodges les éjecte aussi facilement que le pouce serpillière a un jour expulsé la présence de cet homme de son esprit. Il recrache Brady comme un vulgaire pépin de pastèque.
« Aidez-moi !» souffle Brady. « Vous devez m'aider !»« Je pense qu'on ne peut plus rien pour vous, » dit Hodges. « Vous avez été écrasé. » par un véhicule extrêmement lourd. Maintenant, vous savez l'effet que ça fait, n'est-ce pas, Brady ?
Ça fait mal, chuchote Brady.
Oui, dit Hodges. Oui, j'imagine.
Si vous ne pouvez pas m'aider, achevez-moi.
Hodges tend la main et Holly y dépose le Victory 38, telle une infirmière passant un scalpel à un médecin. Hodges fait tourner le barillet et éjecte l'une des deux balles restantes. Puis il referme le revolver. Bien qu'il ait mal partout à présent, un mal de chien, il s'agenouille et place l'arme de son père dans la main de Brady.
« À vous de le faire, » dit-il. « C'est ce que vous avez toujours désiré. »
Jérôme se tient prêt, au cas où Brady déciderait d'utiliser cette dernière balle contre Hodges. Mais non. Brady tente de diriger le canon vers sa tête. Il n'y parvient pas. Son bras tressaute, mais ne se soulève pas. Il grogne à nouveau. Du sang déborde de sa bouche, suintant entre les dents parfaites de Félix Babineau. « On pourrait presque avoir pitié de lui, » se dit Hodges, « si on ignorait ce qu'il a fait au City Center, ce qu'il a essayé de faire à l'Auditorium Mingo, et la machine à suicide qu'il a mise en marche aujourd'hui. Cette machine va ralentir. » et cesser de fonctionner maintenant que son agent principal est hors course. Mais avant ça, elle avalera encore quelques adolescents tristes. Hodges en est plus que certain. Le suicide a beau être douloureux, il est contagieux. On pourrait avoir pitié de lui s'il n'était pas un monstre, se dit Hodges. Holly s'agenouille, soulève la main de Brady et applique le canon du revolver contre sa tempe.
« Voilà, Monsieur Hartsfield, » dit-elle, « vous devez faire le reste vous-même, et que Dieu ait pitié de votre âme. »
« Que dalle !» dit Jérôme. Dans l'éclat des feux arrière du Snowcat, son visage a la dureté de la pierre. Durant un long moment, les seuls bruits sont le ronflement du gros moteur du véhicule à neige et le vent de plus en plus violent de la tempête hivernale.
« Oh mon Dieu !» dit Holly. « Il n'a même pas le doigt sur la détente. L'un de vous deux doit m'aider. Je ne pense pas pouvoir. »
Puis un coup de feu. « Seigneur !» dit Jérôme. « Le dernier petit tour de magie de Brady. » 36. Hodges est absolument incapable de rejoindre leur véhicule à pied. Mais Jérôme parvient à le hisser dans la cabine du Snowcat. Holly s'installe à côté de lui. Jérôme remonte au volant et enclenche la vitesse. Bien qu'il recule et contourne ensuite largement les restes du corps de Babineau, il conseille à Holly de ne pas regarder. On laisse des traces de sang.
Burke.
Ouais, Burke, tu peux le dire.
Thurston m'avait parlé d'une motoneige, dit Hodges. Il ne m'a jamais dit qu'il avait un tank Sherman.
C'est un Tucker Snowcat, et tu ne lui as pas laissé ta Mastercard en garantie, ni une Jeep Wrangler de compète qui m'a amené ici dans le trou du cul du monde sans le moindre ennui, merci.
Il est vraiment mort ?
Demande Holly. Son visage blafard est tourné vers Hodges, et l'énorme œuf de pigeon qu'elle a sur le front semble carrément palpiter.
Mort ?
Tu l'as vu se coller une balle dans la cervelle.
Oui, mais est-ce qu'il est mort, pour de bon ?
La réponse qu'il ne lui donnera pas est non, pas encore. Pas tant que les traînées de bave qu'il a laissées dans la tête de Dieu sait combien de gens n'auront pas été effacées par la remarquable capacité d'auto-guérison du cerveau. Mais d'ici une semaine, un mois tout au plus, Brady aura définitivement disparu.
« Oui, » dit-il. « Et... Holly, merci de m'avoir programmé cette sonnerie pour les messages. » Celle du home run. Elle sourit. C'était quoi, au fait, le texto, je veux dire?
Hodges extirpe tant bien que mal son portable de la poche de son manteau, vérifie et dit.
Alors ça, c'est la meilleure. Il se met à rire. J'avais complètement oublié.
Quoi? Montre! Montre! Montre!
Il incline le portable vers elle pour qu'elle puisse lire le texto que sa fille Allison lui a envoyé depuis la Californie, où le soleil brille certainement. « Bon anniversaire, papa. 70 ans et toujours la pêche. Je file au marché. T'appellerai plus tard. Bise, Ali. » Pour la première fois depuis que Jérôme est rentré de l'Arizona, Tyrone Feelgood Delight fait une apparition.
« Vous avoir 70 ans, Monsieur Hodges? Ça alors? Vous pas faire un jour de plus que 65? »
« Ça suffit, Jérôme, » dit Holly. « Je sais que ça t'amuse. Mais ce genre d'accent est ridicule et stéréotypé. »
Hodges rigole. C'est douloureux, mais c'est plus fort que lui. Au prix d'un effort, il reste conscient jusqu'au garage Thurston. Il arrive même à tirer quelques petites bouffées sur le joint que Holly allume et lui fait passer. Puis, le noir commence à l'envelopper. « C'est peut-être la fin, » se dit-il. « Bon anniversaire, vieux. » Puis il perd pied.